Bonjour à toutes et à tous. Ce petit message pour vous prévenir que cet épisode a été enregistré à distance, et non pas en face à face comme d'habitude. Du coup, si vous entendez des différences de son entre mon invité et moi, c'est tout à fait normal. Bonne écoute.
Moi c'est Julien, et aujourd'hui je vais vous raconter un voyage qu'on a fait l'année dernière en van. On est parti à trois potes, et l'objectif c'était de faire le tour d'Irlande en 10 jours, et terminer en beauté en passant les 2 derniers jours à Dublin pendant la Saint-Patrick.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Julien nous raconte l'Irlande. Avec lui, on a parlé du Bloody Sunday, du Titanic et de Guinness.
J'ai bourlingué à travers le monde. Donc nous, on aime le rugby, le voyage et la Guinness. Donc l'Irlande, c'était parfait pour ça. Donc notre voyage, il commence à Cherbourg. On prend le bateau pendant 16 heures de traversée et on arrive à Rosslare. Bon, Rosslare, c'est juste notre port d'arrivée parce qu'on trace direct la route et on arrive à Cobb. Cobb, c'est l'endroit où le Titanic il a appareillé pour la dernière fois avant de faire sa traversée pour New York, normalement. Mais bon, vous connaissez l'histoire. Cobb, c'est un petit port sympa, les maisons sont colorées, un peu comme partout en Irlande d'ailleurs. Et faut savoir qu'à la période où on y était, c'était le tournoi Destination. Donc première chose qu'on fait en arrivant là-bas, on fonce dans un pub. Petite ambiance sympa, les gens tous à l'intérieur du pub hyper serrés devant le match. Bon, c'était Angleterre-Italie je crois, parce que le match de l'Irlande c'était le lendemain. Donc voilà, on regarde le match, on discute avec des locaux, on rencontre des Français qui vivent là-bas, qui nous disent que pour rien au monde ils changeraient leur vie là-bas. Donc on termine notre journée en allant à Cork, parce que c'était juste à côté. Cork, on retourne dans un pub le soir, on se retrouve dans un immense pub avec une musique en live, flûte traversière, violon, etc. C'est vraiment, je sais pas si vous imaginez l'ambiance, mais c'est terrible. Donc on dort sur place dans le van, on rentre comme on peut au van et puis on passe la nuit là-bas. Donc le lendemain, on visite un petit peu Cork. Pareil, c'est un petit port, c'est une petite ville pas très loin de la mer, mais qui est hyper sympa aussi. Et on trace la route, direction Misenet. Misenet, c'est la pointe extrême ouest, sud-ouest de l'Irlande. Donc c'est un endroit qui est avec des falaises hyper, hyper agressifs par les tempêtes qui ont fracassé la côte. Donc pour y aller, on traverse plusieurs petites villes et on se dit qu'on s'arrêtera à l'heure du match dans une de ces villes pour regarder le match, quoi. Et il se trouve qu'on s'arrête dans une petite ville qui s'appelle Clonalkitty. Et là, on voit un petit pub avec une devanture assez mystérieuse. En fait, les pubs, faut savoir que on voit pas l'intérieur du pub quand on est à l'extérieur. C'est hyper sombre, il y a des affiches sur les fenêtres, etc. Et là, on pousse les portes de ce pub à 15h, 15h30, un truc comme ça. Et là, un monde fou à l'intérieur. Mais on arrive dans l'arrière-boutique, j'ai l'impression, parce que c'est l'autre partie du pub. Donc il y a une petite cheminée, les gens ils sont là au comptoir en train de faire des jeux à gratter. Bon, c'est un peu particulier, là le match commence. Donc on regarde le match avec les locaux, on se commande une Guinness, puis deux. Et à la mi-temps, on va faire la découverte de l'autre partie du pub. Donc on pousse une autre porte derrière la porte des toilettes. Et là, on tombe sur une immense salle de concert. On se dit que la nuit, là, ça doit être vraiment spécial comme ambiance. Ça doit être génial. Bon, après, ça va être le week-end. Et là, on était... je crois que c'était c'était le week-end aussi. Mais on avait notre route à faire pour la journée, donc on n'a pas voulu rester plus longtemps sur place. Dommage parce que l'ambiance était terrible. Donc on arrive à Misenet. Misenet, il y a une sorte de petit musée sur lequel on peut visiter, puis traverser une passerelle normalement, et on arrive vraiment tout au bout de cet endroit pour voir vraiment les falaises, etc. Il se trouve que c'était fermé, donc à cause de la tempête justement. Donc il y avait pas mal de vent, des vagues qui fracassaient la falaise, et c'est vrai que c'était un petit peu dangereux. Ça nous a pas fait peur. Hop, on escalade le petit portillon, on va quand même visiter cet endroit. Bon, on est un peu borderline des fois, mais ça valait le coup. Je prends mon appareil photo, plein d'embruns sur l'appareil, les photos sont pas dingues, mais j'arrive à faire des trucs stylés. On voit vraiment la tempête, les énormes vagues qui fracassent la falaise, c'est terrible. Pour finir cette petite journée, on rebrousse un peu chemin, on va en arrière, et on avait vu un petit port sympa, Skull, ça s'appelle, Skull. Je sais pas trop comment on le prononce. Et en fait, on traçait un peu notre itinéraire en fonction de l'appli Park4Night. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je fais un petit coup de pub pour Park4Night parce que c'est vraiment une appli géniale quand on voyage en van. c'est à but communautaire en fait. Chacun participe au développement de l'appli et ça recense tous les endroits où on peut dormir tranquillement, où on peut utiliser des toilettes, des douches à proximité, des barbecues, etc. Et là, on avait trouvé un petit port sympa avec des douches chaudes. Donc, arrivé au port, bon, c'était marrant parce que j'ai rencontré un Français là-bas qui travaille là-bas. J'arrive avec mon accent un peu de français, mon franglais là, et je lui demande comment on fait pour prendre une douche, et puis il me répond en français, donc il m'a cramé directement. Mon anglais est encore un peu à travailler, je pense. Donc on continue cette journée, ensuite après avoir pris un bon petit déj dans une petite épicerie, je sais pas si vous connaissez un peu les pâtisseries irlandaises, tout ce qui est scones, caramel slice, les barres de chocolat, les chocolate shortbread, ils appellent ça. Ça, c'est vraiment hyper bon. Avec un petit café, et puis on trace notre route direction le Ring of Kerry. C'est une énorme boucle juste à l'ouest de Killarney. Et les routes, elles sont vraiment somptueuses, quoi. Il paraît que c'est les plus belles routes d'Irlande. Donc vraiment, c'est des routes sinueuses, avec des décors, des lacs. À un moment, on longe un petit peu la mer. Si vous connaissez pas l'Irlande, je vous conseille de mettre ce point sur votre itinéraire, quoi. Ça, c'est vraiment terrible. Nous, on s'est retrouvés sur des toutes petites routes où on peut pas passer à deux voitures. Il y avait des moutons qui traversaient la route, il y avait un petit peu de brouillard qui se dégageait, on a fait des photos terribles. J'adore faire des photos et là, pour le coup, le paysage était parfait, quoi. Le van perdu sur les routes irlandaises, quoi. C'était vraiment mystérieux, j'ai adoré. Donc, on termine cette journée à Killarney. Killarney, c'est juste... C'est la boucle qui fait point de départ, point d'arrivée pour le Ring of Kerry. Et à Killarney, il y a un château en ruine, juste à côté d'un lac, mais qui est magnifique, quoi. Vraiment, pareil, c'était mystérieux. Bon, il pleuvait, c'était gris, mais vraiment, ça, c'est ce qu'on demande de l'Irlande, quoi. De la pluie, du gris et des châteaux en ruine. Il faut savoir que tout est vert partout, grâce à la pluie, hein. On trouve des champs immenses, verts, des prairies avec des moutons, tout est vert. C'est vraiment l'Irlande, quoi. Donc, on termine notre journée, on trace la route direction Limerick. Donc, on termine notre journée là-bas, on se dit, on va trouver un petit pub et puis on va visiter cette ville. La ville en soi est sans intérêt, mais bon, c'était sur notre itinéraire et puis il y avait des douches. On trace un peu notre itinéraire en fonction des spots qu'on trouvait sur Park4Night, quoi. Donc on passe la soirée à Limerick, et le lendemain, on fait notre itinéraire, c'était direction Galway. Mais en passant par les Cliffs of Moher, ça c'est vraiment un endroit qu'il faut voir en Irlande, c'est les Cliffs of Moher, c'est des falaises immenses. Je sais pas combien il y a de hauteur, je crois que c'est des falaises de 200 mètres, je crois. Alors on s'approche des falaises, et puis d'un coup, pff, là vous êtes pris par la gorge, là tellement c'est beau. Pareil, toutes les falaises sont vertes, et puis d'un coup, clac, là, vous voyez 200 mètres de chute libre. Et il y a une petite rando qui fait tout le tour, qui fait le longe-côte là, des falaises. Donc on a fait cette petite rando, et à un moment, la rando elle passe pas très loin du bord quand même. Faut pas flipper, parce qu'avec le vent qu'il y avait, on s'accrochait vraiment à la rambarde, et puis je vous jure que le vent il pousse, il te tire, t'as l'impression que tu vas t'arracher avec la barrière et que tu vas tomber dans le vide. Et vraiment, ça tire, quoi, avec le sac à dos, t'es emporté par le vent, quoi, ça fait flipper un peu. Hein. Donc les Cliffs of Moher, plein de photos, des souvenirs plein la tête. Et on trace notre route et on termine notre journée à Galway. Donc Galway, c'est un petit port de pêche, pareil, des pubs sur le port, vraiment une très bonne ambiance. Donc nous, on avait trouvé notre petite douche là-bas, notre petit repère. On était tout au bout d'une sorte de remblée au bord de la mer, quoi. Et il y a cette pierre qui nous a interpellés, parce que là où on était garé, où on prenait notre douche, il y avait tous les gens qui faisaient la balade du front de mer. Ils shootaient dans le mur qui était au bout du front de mer, quoi. Donc en cherchant un peu sur Google, d'ailleurs, c'est pas facile de trouver, parce que c'est pas un truc hyper connu, mais ça s'appelle le kicking wall. Il paraît que c'était une compétition auparavant. Les gens, ils faisaient tout le front de mer, ils tapaient dans le mur et puis ils faisaient l'autre partie ils faisaient le chemin retour, quoi. Donc vraiment vraiment bizarre que ces gens ils continuent de shooter dans le mur en faisant la balade du front de mer. On termine notre soirée à Galway et on trace notre route direction le Connemara. Donc là c'était une grosse journée hein, cette journée-là. On part de Galway direction les lacs du Connemara. Là c'était vraiment plus mystérieux, quoi, sous le brouillard au début, puis au fur et à mesure qu'on avançait, pluie, etc. Mais vraiment c'était vraiment les décors de l'Irlande. Comme vous pouvez l'imaginer. Petite rando dans le parc du Connemara, et puis on termine la journée, enfin on termine notre après-midi à l'abbaye de Kilmore. L'abbaye de Kilmore, c'est vraiment une abbaye mystérieuse, vous savez, avec le toit pointu, des pics un peu partout, et elle est vraiment au pied d'une montagne, avec un lac devant, et il y avait un petit peu de brume sur le lac, vraiment c'était terrible. Après on se fait beaucoup de route, et on a sauté pas mal de points que j'avais notés sur mon itinéraire. À savoir que pour préparer le voyage, je trace tous mes itinéraires sur Google My Map. Je check sur Insta, je check sur Google les lieux qui peuvent nous intéresser. Des lieux potentiellement photogéniques. En général, j'adore faire des photos, alors du coup, je cherche les lieux auparavant. Et puis je me trace cette carte sur Google My Map en mettant tous les points, et en fonction des nombres de kilomètres qu'il y a, on se dit on va dormir par là ou par là, etc. Donc c'est vrai que je prépare un petit peu le voyage avant de partir, mais là on a sauté plein de points parce qu'on avait passé un peu plus de temps que prévu au lac du Connemara, enfin dans le parc du Connemara, etc. On contraste notre route direction Londonderry. Et là, Londonderry, c'est l'Irlande du Nord, donc l'Angleterre en soi. On arrive à Londonderry, donc on passe pas de frontière, on traverse un pont et là on est en Irlande du Nord. A savoir qu'avec le Brexit... c'est cette frontière qui va poser problème parce que les Irlandais, ils la passaient dans un sens dans l'autre sans problème, alors que maintenant, ça va devenir une frontière fermée. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des manifs autour de cette frontière au nord d'Irlande au moment du Brexit. Donc on arrive à Londonderry, ambiance hyper particulière. Il fait nuit, personne dans les rues sont comme les autres villes d'Irlande, un peu sombres, etc. Mais là, on croise des 4x4 de gendarmes. Enfin, de la police locale, des 4x4 blindés, donc avec le pare-brise, avec du grillage sur le pare-brise, des plaques sur le côté pour pas que les gens puissent aller en dessous, etc. Vraiment, on se dit, mais où est-ce qu'on débarque? C'est un peu particulier. Faut savoir que Londonderry, ça a été la zone de combat un peu pendant le Bloody Sunday. Bon, pour la petite histoire, vous regarderez sur internet, mais on a visité toute la partie de la ville sur laquelle il y avait eu ces batailles, ces combats. En fait, c'est des grosses manifs qui ont dégénéré. Il y a eu pas mal de morts à Derry. Enfin, Derry ou Londonderry d'ailleurs, ça dépend comment on dit. Donc on a rencontré des locaux dans les pubs qui nous ont dit « Alors attention les gars, si vous dites Londonderry, c'est que vous êtes plutôt unioniste protestant. Et les catholiques, ils disent plutôt Derry. » Donc voilà, c'est un peu particulier. Ça dépend, si on est plutôt anglais, on va dire Londonderry. Si on est irlandais pur, on dira Derry. Ils nous ont dit, alors attention, vous dites Derry, hein, parce que sinon, vous allez vous faire des ennemis là-bas. Donc voilà, on passe notre soirée là-bas, on rentre dans un pub, et là, une ambiance terrible, quoi. Alors que toute la ville est sombre et fermée, et là, on rentre là-dedans, et là, c'est le premier pub dans lequel on a entendu... La musique qu'il y a dans le Titanic, je sais pas si vous vous rappelez, c'est la musique quand ils sont dans la cale et qu'ils écoutent des musiques irlandaises, Jack et Rose, avec le violon, enfin... Enfin, je sais pas si ça vous parle, mais moi, quand j'ai entendu cette musique, ça m'a pris là, et puis en live dans un pub, enfin, c'était génial. On adore la musique, on adore les pubs, et là, on était dans notre ambiance, quoi, c'était génial. Faut savoir qu'à Londonderry, Irlande du Nord, on paye en livres sterling, pas comme en Irlande. Donc on était un peu emmerdé le petit matin pour prendre le petit-déj, mais ça s'est vite passé. Pareil, petit-déj à base de scones, caramel slice, petit café, et puis on se retrouve sur la place de l'église. Petit matin, il y avait des caméras partout, alors on se demande pourquoi il y a ces caméras. Je mets une petite story sur Instagram, et là il y a une pote qui me répond, qui me dit qu'en fait... c'était un jour symbolique, le 14 mars 2019, puisqu'ils étaient en train de juger un... Enfin, c'était la journée pendant laquelle ils allaient juger un soldat, un ex-soldat britannique. Ils allaient le juger pour meurtre commis pendant le Bloody Sunday, donc plusieurs années plus tard. Hein. Et en fait, cet ex-soldat britannique, il avait tué 4 personnes, et je crois qu'il avait fait des tentatives d'assassinat sur au moins 8 autres personnes. Donc voilà, journée plutôt symbolique. On termine notre visite de Londonderry par le quartier de Boxside. Boxside, c'était la zone de combat un peu, donc il y a des fresques murales un peu partout. C'est vraiment magnifique, vous verrez ça aussi dans mes photos. Ah oui, si vous voulez voir mes photos, bah, je vous fais un petit coup de pub, mais j'ai un compte Instagram sur lequel je mets toutes mes photos de voyage. C'est Julien DPZ. Donc allez checker tout ça sur Insta, vous verrez, Ces fresques murales dont je vous parle, je les ai postées au mois de mars 2019. Donc il y a notamment une fresque immense qui fait la taille d'un immeuble avec un jeune en train de lancer des pavés sur les gendarmes. Et ce jeune, il a un masque sur la bouche à cause des gaz lacrymogènes qu'il aspire. Voilà. Dans ce quartier de Bogside, il y a une fresque en plein milieu d'un rond-point. Enfin, juste à côté d'un rond-point, et c'est marqué « You are now entering the free dairy ». Donc vous êtes en train d'entrer dans la zone libre de dairy. Et il y a une sorte de stèle au pied de ce mur qui explique le Bloody Sunday, etc. On quitte Londonderry, ou Derry plutôt, et direction un spot hyper connu en Irlande du Nord. Les amateurs de Game of Thrones vont reconnaître... C'est la Giant Causeway, donc c'est la chaussée des géants en français. C'est un endroit hyper touristique, d'ailleurs un peu trop de touristes à mon goût, mais on est quand même allé voir parce qu'il fallait qu'on voit ça. C'est des formes rocheuses créées par les éruptions volcaniques. Enfin, je suis pas non plus très bon en géologie, mais bon. Vous regarderez sur internet, c'est vraiment un endroit magnifique, une sorte de chaussée avec des formes hexagonales là, qui s'avancent sur la mer. Et c'est vraiment les couleurs de l'Irlande, quoi. On voit une montagne hyper pointue qui est pile dans l'axe de cette chaussée. C'est magnifique. Donc on quitte cet endroit un peu trop touristique, avec ses quarts de touristes japonais et chinois. Direction les Dark Edge. Dark Edge, c'est en train de devenir touristique à cause de Game of Thrones, mais c'est en fait une route avec des arbres centenaires. Et c'est hyper mystérieux. Si vous allez voir le profil de Jonathan Boonsday, Jonathan Bertin, je crois, il a fait une photo de nuit, lui, avec les phares de la voiture qui éclairent là, dans ces arbres centenaires. Et la photo, elle est vraiment parfaite. Petit coup de pied pour toi, Jonathan. Ensuite, on termine notre journée au Kinbane Castle. C'est un petit château, pareil, en ruine, qui est vraiment sur une pointe. Et là, on voyait la tempête arriver... au loin, donc on commence à aller vers le château, puis on rebrousse chemin dès qu'on voit le château, parce qu'on commence à prendre une espèce de pluie monstrueuse qui s'abat sur nous. Et là, en courant, j'arrive à faire des clichés géniaux là, dans les marches, un peu floues, mais hyper stylées. Bon, vous irez checker tout ça aussi. On trace notre route direction Belfast. On arrive à Belfast, donc c'est une très grosse ville, Belfast. Un peu compliqué pour nous de trouver un endroit pour se garer avec le van et passer la nuit. Donc on se retrouve sur le port, le petit port de plaisance de Belfast. C'est juste à côté du musée du Titanic. On fait un tour dans les pubs de Belfast et puis on passe notre nuit dans notre van. Et le lendemain matin, on va visiter Belfast. Donc Belfast, hyper sympa. On va prendre notre petit déj au marché Saint George de Belfast. On goûte le fameux Belfast Babs. Babs. Belfast Babs. Je sais pas si on dit comme ça. C'est une sorte de egg McMuffin, un peu comme chez McDo, enfin, le muffin avec des œufs et du bacon, sauf qu'eux, ils mettent de la saucisse en plus sur un truc hyper consistant pour le petit-déj, parfait. On visite ce marché où on trouve un peu tous les produits, on ramène des cartes postales anciennes, c'était super, super génial comme endroit. On termine notre matinée en déambulant dans les rues de Belfast, donc... On va au mémorial du Titanic, donc on va faire un tour sur le musée du Titanic, qui est juste à côté de l'endroit où ils ont construit le Titanic, justement, juste à côté des chantiers H&W, c'est Harland & Wolff. Donc c'est, y a deux immenses portiques qui sont hyper connus à Belfast, c'est un peu le symbole de Belfast aussi, ça, le Titanic et le marché Saint-Georges. Et on retrace notre route direction Dublin. On arrive à Dublin le soir. On va dans notre endroit favori de Dublin, Temple Bar Land. Je sais pas, non, Temple Bar tout court, hein, ça ira. Mais c'est vraiment l'endroit, notre endroit préféré de Dublin, quoi. C'est une rue avec que des bars, que des pubs anciens, dont le fameux Temple Bar, le bar le plus connu d'Irlande, je pense. Hein. Enfin, le pub le plus connu d'Irlande. Et puis on finit notre soirée. Là-dedans, en écoutant des musiques en live irlandaises sur le rythme de l'ambiance des pubs. Le lendemain matin, on visite un petit peu Dublin. On se fait le Book of Kells dans le Trinity College. Le Book of Kells, c'est une ancienne bibliothèque. Enfin, non, c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque qui est au centre de l'université, qui abrite des livres très 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 anciens, dont le fameux Book of Kells, qui date des années 800 après Jésus-Christ. C'est un livre qui a été gardé dans son état d'origine, qui avait été écrit par des moines il y a hyper longtemps, quoi, du coup. Et vraiment, c'est l'attraction du Trinity College. On se fait la parade de la Saint-Patrick dans les ruelles de Dublin et on termine notre journée comme les autres journées dans les pubs irlandais. Le lendemain matin, un jour de match, on avait garé notre van pas loin de la Viva Stadium justement. Donc hyper compliqué de trouver une place en ville gratuite pour laisser le van. Donc on a fait notre parade de la Saint-Patrick en ville, et puis on est allé visiter le musée Guinness, le musée Jameson, la distillerie de whisky à Jameson, et on termine cette journée dans le Brazen Head. Donc c'est le plus vieux pub d'Irlande ou de Dublin. C'est un pub qui date de 1198, donc c'est quand même un endroit particulier. Pareil, musique en live, très bonne ambiance dans ce pub. On trace la route direction Cork pour un retour en France. Donc on avait fait le trajet aller Cherbourg-Rosslare et on rentre de Cork à Roscoff en Bretagne. Pareil, 14 heures de bateau pour le sens retour. Et bon là on était tellement claqués que on s'est passé en vitesse quoi. On s'est endormi, on s'est réveillé 12 heures plus tard, il nous restait 2 petites heures à manger et boire une dernière Guinness sur le bateau et on était de retour en France. Donc c'était une aventure de dingue, hein. On s'est dit avec nos potes, avec mes potes, qu'on allait se refaire ça un de ces quatre, sûrement en Écosse ou ailleurs. En tout cas, on a plutôt adoré le voyage. Un peu quelques galères, parce qu'on avait prévu de dormir à deux dans le van et un en tente, et puis d'inverser. Et au final, quand on a vu le temps qu'il faisait en Irlande, eh ben on s'est rabattu, on a dormi à trois dans le van. Donc on avait aménagé un coin pour dormir, un petit coin pour faire la bouffe. Mais voilà, ça s'est bien passé quand même. Et vraiment, c'est à faire. C'est l'affaire, je vous dis ça pourquoi, parce que on a payé seulement 200 euros aller, 200 euros retour en bateau. Donc sur place, on n'avait aucun frais d'hébergement, quoi. On avait notre voiture, on se déplaçait là-bas avec le van. Donc on a visité tout le pays en 10 jours, on est plutôt autonome, quoi. Là, pour le coup, on garait notre van à l'endroit où on voulait dormir, et puis on se réveillait le matin et on découvrait l'endroit où on s'était garé, quoi. C'était magnifique. On était vraiment dans l'ambiance du voyage.
Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier ?
J'ai voulu raconter ce voyage en particulier parce que c'était mon premier voyage avec mon van. Donc ce van que j'ai aménagé, préparé pour pouvoir faire plein d'autres voyages avec. Et pour le coup, j'ai choisi l'Irlande pour commencer à voyager en van. Donc j'ai convié mes deux potes à participer avec moi à ce petit voyage. Bon, certes, ça n'a pas duré hyper longtemps, mais c'était quand même 10 jours fabuleux, quoi. Le fait d'être autonome avec son van, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, quoi. Tu check tes endroits où tu veux camper grâce à l'appli Park4Night, puis tu vas là où tu veux aller, si t'as envie d'aller là plutôt que là, sur la route, tu croises des trucs inattendus, donc tu t'arrêtes, tu continues ton voyage, etc. C'est vraiment la liberté, quoi. De voyager en van, c'est vraiment génial. Donc j'ai raconté ce voyage en particulier parce que pour vous donner envie à vous de partir plus souvent en road trip aussi. Vous savez, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un van, hein. Vous prenez une voiture, un réchaud, vous couchez les sièges à l'arrière, ça vous fait un lit pour dormir. Enfin voilà, le voyage en road trip, quoi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire de plus en plus souvent, je pense. Vous êtes à fond dans l'autonomie et vous laissez prendre par le voyage, quoi.
De manière générale, avant de partir en voyage, est-ce que tu as un rituel particulier ? Dans la préparation, par exemple, ou alors quelque chose que tu fais toujours avant de partir ?
Alors, de manière générale, avant de voyager, ouais, c'est vrai que j'ai plusieurs rituels, on va dire. Donc, à chaque fois, je check sur Insta. Alors, pour commencer mon voyage, je check sur Insta, par exemple pour l'Irlande, Irlande Tourisme, Discover Ireland, etc. Ou avec les hashtags Tourisme en Irlande, enfin tout ce qui peut avoir un lien avec l'Irlande. Et ensuite, je regarde les photos que les gens ont postées ou que les groupes ont reposté. Et là, je trouve des lieux que j'avais pas vus auparavant en regardant sur Google ou autre, par exemple. Du coup, je note où est-ce que cet endroit c'est, etc., sur une carte. Donc, je me fais une Google My Maps, ça s'appelle. Et là, je trace mon itinéraire avec chaque point que j'ai voulu, que je veux visiter pour faire mon itinéraire, quoi. Donc, à la fin, ça me trace un itinéraire. Et puis, je me dis, ben voilà, je fais ça sur telle journée, ça sur telle journée. Et ainsi de suite, quoi. Après, je demande beaucoup aux gens qui y sont déjà allés aussi, si ils ont des lieux à recommander, enfin, s'ils ont des lieux qu'ils ont particulièrement aimés pendant leur voyage et qu'ils voudraient recommander pour aller visiter, quoi. Et puis, j'ai un autre rituel avant chaque voyage, c'est que je check tout mon matos photo, quoi. Et puis, parfois, je craque pour un nouvel objectif. Je pense à racheter une batterie, une deuxième batterie au cas où, une batterie de drone. Je fais aussi des photos en drone, donc ça. J'essaye de racheter des petits filtres pour le drone, des filtres pour l'appareil photo. Enfin, voilà mes petits rituels.
Tu dis que tu prépares vachement tes voyages, sur Google, sur Instagram, mais est-ce que malgré tout ça, tu laisses place à l'improvisation? Et est-ce que tu as une anecdote d'un imprévu à raconter pour ce voyage ou pour un autre voyage?
Alors c'est vrai que depuis quelques temps, je prépare pas mal mes voyages, notamment parce que je bosse et que mes voyages ils durent 15 jours, 3 semaines maxi, et que j'ai pas forcément le temps de pouvoir chiller sur la route comme on dit. J'en suis pas à mon premier voyage, mais mon tout premier voyage qui était en Australie. Je suis parti sur un coup de tête avec un visa Working Holiday. Donc j'avais l'objectif de rester un an en Australie, travailler, voyager. Pour le coup là je suis parti tout seul au début. J'ai rejoint ensuite une pote qui est arrivée en Australie à peu près en même temps que moi. Donc après on a voyagé tous les deux ou trois avec sa pote aussi. Et pour le coup là j'étais à l'impro quoi, totalement à l'improviste. J'allais là, j'allais dès qu'on trouvait un job, j'allais de woofing en woofing aussi. Et puis, ce voyage avec ma pote, il s'est coupé à Bundaberg, l'endroit où j'ai rencontré deux autres potes avec qui j'ai continué de voyager ensuite. Et là, c'était vraiment un voyage parfait, quoi. Donc, on avait tous les trois le même délire. On a pu voyager. On a loué un van, on a acheté une voiture, puis on a reloué un van. On est parti en Asie du Sud-Est, on est revenu en Australie. Enfin voilà, là, c'était vraiment de l'impro total. Et pour le coup, c'est complètement différent de ce que je fais aujourd'hui, dans la manière où j'organise mon voyage, pour pas louper des spots et pas perdre de temps, on va dire, sur le voyage, quoi, pour profiter au max du voyage. Alors ouais, j'ai peut-être une anecdote à raconter, peut-être pas sur ce voyage en Irlande en particulier, mais quand on était en Australie, par exemple, on était en camping sauvage au nord de Cairns, 40 minutes de Cairns, quelque chose comme ça, côté d'une mangrove, pas très loin de la plage. Et comme tous les soirs, on se faisait un petit feu de camp, on discutait, on écoutait de la musique tous les trois. Et puis à un moment, je me décide d'aller me brosser les dents. Donc je me lève, je vais à la voiture qui est à 4 mètres de notre feu de camp, tu vois, à peu près. Et j'entends du bruit dans les feuilles. Alors je sors ma lampe torche et j'éclaire. Et là, clac, je vois un énorme serpent qui se met un peu en retrait, en mode prêt à bondir, quoi, tu vois. Donc là, j'appelle mes potes, tout, je leur dis, venez, venez, il y a un énorme serpent et tout. Donc là, au début, ils me croient pas, et puis après, ils arrivent. On sort tous la GoPro, on accroche la GoPro au bout d'une grande branche, on monte sur le capot de la voiture, et puis on filme le serpent. Il était un peu apeuré, le pauvre, mais on éclairait, on regardait, on le filmait. Là, le serpent, il tournait un peu autour de la caméra et tout, et puis on a fait des petites vidéos. Donc après, on l'a fait fuir, hein, parce que on savait pas ce que c'était comme serpent, donc on a fait du bruit dans les feuilles, et qu'un bâton, on l'a fait fuir pour pas avoir le serpent à côté de notre tente. Et on a montré cette vidéo à des Australiens le lendemain, et dont un qui connaissait un peu les serpents, et il nous a dit Guys, you're crazy. Les gars, vous êtes fous, c'est un taipan, et c'est genre le serpent le plus venimeux d'Australie. Une morsure de ça peut tuer, si tu divises son venin dans 200 petites injections, tu peux tuer 200 personnes, quoi. Donc on était à 40 minutes de Cairns. Impossible de se rendre en moins de 10 minutes dans un hôpital pour se faire soigner. Enfin voilà, c'était juste une anecdote incroyable qu'on a vécue. Et ça reste gravé dans la tête et c'est le genre de souvenir de voyage que tu oublieras jamais, quoi. Mais j'en ai pas eu des aussi bien racontés sur le voyage en Irlande, quoi. C'était chouette quand même.
Alors, qu'est-ce que tu vas toujours prendre avec toi dans ton sac?
Alors je prends toujours mon appareil photo, ça c'est sûr, il va jamais me quitter celui-là. Parce que j'adore faire de la photo et pour le coup, si je pars en voyage, c'est aussi pour ramener des clichés et puis pouvoir me les garder pas seulement en tête, mais aussi pouvoir me faire des prints chez moi, des albums photos. Parce que c'est vraiment des souvenirs que tu peux garder sur papier, quoi. Donc un album photo que tu partages avec tes amis, ta famille. Je prends aussi mon drone, voilà, parce que je trouve qu'avec le drone, on a une autre perspective de l'endroit sur lequel on est en train de faire une photo. Et là, on prend un peu d'hauteur et là, on voit que. Par exemple, en Irlande, on était à côté d'un château en ruine. Donc, je sors le drone après avoir fait quelques clichés avec mon appareil. Et là, en prenant un peu d'hauteur, je vois qu'il y avait des lacs autour. Et puis, je passe un peu au-dessus des nuages. Et puis là, voilà, la photo terrible. Le château, un peu de nuages autour, de la brume et les lacs derrière. Enfin, Voilà, ça c'est vraiment les trucs que je prends toujours avec moi dans mon sac à dos. Je prends quoi, c'est une bonne paire de chaussures à chaque fois pour pas partir en basket à l'arrache quoi. Il faut toujours pouvoir marcher et puis quand t'as des chaussures un peu de montagne, tu peux marcher dans la boue sans problème pendant des heures. T'as pas mal aux pieds, t'as pas d'ampoule à la fin de ta rando quoi. Enfin c'est tout, ça prend une gourde aussi. Alors les gars, la gourde, c'est pas une bouteille en plastique que tu jettes à la fin. La gourde, c'est un truc que tu remplis, que tu réutilises et ça peut durer toute une vie une gourde quoi. Tu peux même mettre du café, c'est à l'isotherme, enfin. Voilà, les gars, pensez à prendre des gourdes et éviter à fond le plastique.
Est-ce que tu voyages toujours avec le même groupe d'amis? Et de manière générale, comment tu choisis les gens avec qui tu vas voyager?
Alors non, je ne voyage pas toujours avec le même groupe d'amis. D'ailleurs, en Irlande, c'était peut-être le deuxième voyage que j'avais fait avec eux, mais en fait, c'était surtout pour le choix du pays, quoi. C'était un endroit où on allait faire la fête et on allait voyager en même temps. Et pour ce voyage-là, bah, c'était eux qui correspondaient le mieux à ce profil de voyage-là, quoi. Sinon, en Australie, par exemple, quand je suis tombé sur ces deux autres potes avec qui j'ai terminé mon voyage sur les 4 derniers mois d'Australie, je donnerais tout pour voyager avec eux, quoi. C'était vraiment, on avait le même délire de voyage, on avait les mêmes objectifs, on était tous à la recherche de l'aventure, à la recherche des animaux sauvages, etc. Enfin, on avait vraiment ce délire pour le voyage et j'ai pas retrouvé chez d'autres personnes pour l'instant, quoi. Sinon, depuis quelques temps, je voyage avec ma copine, Charlotte. Enfin, on a à peu près les mêmes objectifs de voyage quand on part tous les deux. À savoir qu'on a déjà fait plusieurs voyages ensemble, donc on est parti en road trip au Maroc. Donc là-bas, on a loué une voiture, on est parti de Fès jusqu'à Meknès, Casablanca, Rabat, en descendant jusqu'à Essaouira, puis on n'est pas allé jusqu'au désert, mais on est revenu jusqu'à Marrakech. Bon, on s'est fait 15 jours de road trip au Maroc. Avec le van, on est parti en Bretagne, faire toute la pointe Finistère, Côte d'Armor, ça c'était génial aussi. Et là, récemment, cet hiver, on est parti tous les deux aux States, donc on s'est fait un road trip côte ouest, Grand Canyon, Monument Valley, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, enfin. On s'est fait 8000 km sur la côte ouest en 15 jours, c'était génialissime. Et sinon, depuis 2 ans peut-être, depuis 2 ans que j'ai le van, ça m'arrive de partir tout seul aussi, quoi. Le fait de voyager solo, tu fais ce que t'as envie, tu passes par où tu veux. Et puis voilà, tu te laisses prendre par l'impro et tu discutes avec les locaux, tu te gares toujours avec Parfour Night. J'ai pu rencontrer des gens qui revenaient de tel ou tel endroit en van et ils m'ont dit franchement vas-y quoi, parce que c'est terrible. Voilà, ça c'est aussi l'aventure du voyage en solo quoi, ce que j'ai apprécié particulièrement.
Est-ce que tu peux nous parler de la Saint-Patrick et concrètement qu'est-ce qui se passe en Irlande ce jour-là et à quoi ça ressemble?
Je m'attendais à cette question. La Saint-Patrick en Irlande. La Saint-Patrick, ça tombe le 17 mars. C'est leur fête nationale. Et alors, en fait, il faut savoir qu'on le fête au moins 3-4 jours avant, même si c'est pas 5 ou 6, même parfois. Donc, j'ai pu le faire deux fois en Irlande, la Saint-Patrick. Donc, une année, on était à Galway. Et là, sur le voyage que je vous ai raconté, on était à Dublin. Donc, on l'a vécu de deux manières un peu différentes. Donc, à Galway, par exemple, 3-4 jours avant, on allait dans les pubs et il y avait déjà des banderoles partout dans les ruelles, etc. Les gens, ils sont déjà à fond dans leur truc. On dirait un peu que le pays s'arrête pendant 3-4 jours avant. Et par exemple, le 18 mars, là, ça reprend d'entrée. Ils sont tous au boulot, etc. Donc, on était un peu surpris par rapport à ça, justement. C'est que pendant 3-4 jours avant, ils font la fête et puis que le lendemain, ça s'arrête net et c'est reparti pour jusqu'à l'année d'après, quoi. Donc voilà, j'avais comparé un peu leur fête nationale à la nôtre, mais c'est pas du tout pareil. Nous, on a une parade militaire, etc. Et on fait pas forcément la fête, nous, pour le coup, le jour du 14 juillet. Il y a le feu d'artifice, c'est vrai. Mais eux, le pays s'arrête totalement, tout est figé. Il y a les parades dans la rue, les commerçants ferment leurs portes, ils font la fête. Tous les gens sortent dans la rue avec des godets pleins de Guinness, etc. Enfin, c'est un moment de rencontre et de convivialité. Nous, on n'a jamais rencontré autant de personnes que le jour de la Saint-Patrick, quoi. On a pu parler avec plein de gens, rencontrer plein de gens. Puis il y avait, je sais pas si vous vous rappelez, une année, ils avaient même coloré la rivière qui traverse Dublin en vert. Donc c'est vraiment un truc oufissime à faire. Je vous conseille à tous d'aller faire ça. C'est un peu comme la fête de la bière à Berlin, enfin en Allemagne, etc. La fête des morts au Mexique, enfin voilà, ça fait partie des trucs à voir.
Une fois que tu es de retour au pays, est-ce que tu es atteint de ce qu'on peut appeler le blues du voyageur? Et si c'est le cas, comment tu le soignes?
Je vais pas vous mentir qu'après mon voyage en Australie, qui était mon premier voyage, le retour, ça a été un peu difficile sur le coup. Bah, après un an de voyage, retrouver sa famille, ses amis, etc. Et puis se dire que maintenant il va falloir bosser, trouver un boulot et pas forcément repartir. Bah, je suis revenu un peu à sec aussi de mon voyage. Il fallait travailler, quoi. Donc voilà, le retour est hyper difficile. Vous passez d'une vie de vagabond à découvrir des terres inconnues, et puis là vous revenez en France, voilà. Retour à la réalité, triste réalité. Sinon, pour les petits voyages que j'ai fait récemment, 10, 15, 3 semaines, là pour le coup, le retour se passe plutôt pas mal. Et puis tu dis, voilà, maintenant je vais bosser et je vais préparer mon futur voyage.
Je voulais savoir comment tu considères les rencontres que tu fais en voyage. Est-ce que tu vois ça comme des amitiés à usage unique, un petit peu comme dans Fight Club, ou est-ce que tu gardes contact avec les gens que tu as rencontrés sur place ?
J'essaie de garder contact un maximum avec les gens que j'ai pu rencontrer en voyage. On n'est pas à l'abri de se recroiser un jour pour boire un godet au Chili, au Pérou, au Canada, ou aux Philippines, ou à Hawaï, quoi. Donc ça peut être un truc hyper génial, quoi. Se revoir après 10 ans, par exemple, se dire on a voyagé ici tous les deux ensemble, voilà, je préfère garder contact. On sait jamais. Et pour garder contact, à ce propos, il y a Bruno Maltor qui organise régulièrement sur Paris ou d'autres villes de France ce que lui, il appelle le verre du voyageur. Donc là, pour le coup, si on peut y aller avec d'autres potes et d'autres gens avec qui j'ai voyagé en France, et se réunir là-bas et puis pouvoir rediscuter du voyage, se réunir et discuter entre voyageurs, ça c'est vraiment un truc à faire, quoi. Allez checker sur son profil, il organise régulièrement cet événement, le verre du voyageur.
Pour se parler du futur un peu, c'est quoi ta wishlist ou tes projets de voyage, là où t'as envie d'aller à court, moyen ou à plus long terme?
Alors oui, j'ai des rêves de futurs voyages. Donc, à tout prix, je veux voir des aurores boréales. Ça, c'est vraiment un rêve que j'aimerais réaliser. Je veux aller voir des glaciers, je veux aller voir des pays nordiques. Pas forcément en Islande, c'est devenu un peu trop touristique à mon goût, mais bon, peut-être que j'irai faire un tour quand même. Sinon j'aimerais plonger dans les eaux limpides des Caraïbes ou faire un safari en Namibie, ça c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Et sinon mon gros fantasme serait de pouvoir voyager en voilier. Donc pourquoi pas traverser l'Atlantique et puis me retrouver dans les îles avec mon voilier et faire du cabotage comme ça, d'île en île. Et ça c'est vraiment un autre mode de vie, quoi. C'est quelque chose, voyager uniquement avec la force du vent, quoi. Voilà, je travaille chez Beneteau, construire des voiliers, je veux partir en voilier, objectif de vie. Et bien évidemment, continuer de découvrir tous les pays autour de la France et de l'Europe avec mon van, mon fidèle compagnon de voyage. Donc ouais, pourquoi pas faire des étapes en Europe, pourquoi pas se faire l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles, ou alors carrément aller de l'autre côté, pourquoi pas aller en Italie, tout ce qui est Croatie, jusqu'à la Grèce. Voilà, ça serait des endroits à faire.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien, donc t'as un petit espace à toi qui t'est réservé, où tu peux partager un proverbe, une recommandation, une anecdote. C'est à toi.
Donc merci à tous de m'avoir écouté. Je vous disais tout à l'heure que vous pouvez aller voir mes photos sur mon compte Instagram. Donc c'est Julien DPZ. Donc il y a du nouveau qui arrive. En plus en ce moment, là je suis en train de poster les photos de notre dernier road trip aux USA. Ça va être vraiment sympa là. Petit à petit, je poste. Vous irez voir tout ça et me donner votre avis. Sinon, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est de voyager de plus en plus souvent en road trip. Franchement, c'est pas plus cher, c'est peut-être même moins cher. Vous prenez votre billet d'avion, vous arrivez à tel ou tel endroit, vous louez une voiture, et puis voilà, vous avez votre itinéraire, vous savez ce que vous avez à faire, ou pas, ou partez à l'arrache, comme vous voulez. Mais il faut fuir ces promoteurs de voyage qui vous disent d'arriver dans tel hôtel, le lendemain vous prenez telle ou telle excursion. Non, non, c'est pas ça le voyage, les gars. Le voyage, c'est d'être autonome et de faire ce qu'on veut et de pouvoir aller où on veut, à quel moment s'arrêter plus longtemps ici, profiter plus de temps. Et puis vous voyagez de Airbnb en Airbnb, de motel en motel ou chez l'habitant à chez l'habitant. Et puis en plus, ça forme les rencontres. Vous allez pouvoir rencontrer des gens que vous n'aurez jamais rencontrés si vous voyagez en bus ou autre, quoi. Donc voilà, moi je vous conseille de voyager de cette façon. Ou à pied. Ou en stop. En stop, c'est une autre façon de voyager. Je l'ai vécu, on l'a vécu avec mes copains en Thaïlande. On est parti en stop de la Thaïlande jusqu'au Cambodge, retour Thaïlande jusqu'au sud de la Thaïlande. On s'est fait plus de 3000 km en stop au milieu de la Thaïlande, et là on a rencontré tout type de personnes, quoi. Des gendarmes qui nous ont pris en stop, des moines bouddhistes qui nous ont pris en stop, un quart de personnes qui essayaient de rejoindre leur famille au Cambodge, une petite famille qui est rentrée de la fête foraine au Cambodge, qui nous a quand même pris en stop, on était 6 dans la voiture. Enfin, voilà, c'est le voyage forme la rencontre, et surtout, ne l'oubliez jamais, quoi. Donc voilà, et mon petit mot de la fin, ça va être le même que Bru-Bru. Surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace !
Merci beaucoup, Julien. Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui. Une partie de moi, mon bonheur.